Bienvenue à Mongeard. Le petit village de Mongeard, juché sur une haute colline du Lauragais, est dominé par sa puissante église du XVIe siècle. Mongeard est une bastide fondée en 1317 sur ordre du roi de France, Philippe V le Long, et à l'aide de son représentant, le sénéchal de Toulouse, Guy de Guillard. Ce dernier a d'ailleurs donné son nom au village. Les bastides sont des villes nouvelles créées dans le sud de la France entre 1222 et 1350. On en compte en effet plus de 300 dans la région. Ces bastides sont toutes fondées par un contrat passé entre le roi de France et le seigneur local. Ici, ce dernier s'appelait Hugues de Peit et gouvernait le territoire aux alentours, dont la seigneurie de Nayou. La construction de ces bastides avait plusieurs buts. Premièrement, un but économique. Les bastides étaient en effet des lieux d'échange où avaient régulièrement lieu des marchés et des foires. Un but social, abriter et loger la population locale. Et enfin, un but politique, c'est-à-dire contrôler les habitants et asseoir son pouvoir. Le contexte de l'époque est en effet instable. De 1209 à 1229 eut lieu la croisade contre les cathares. Les cathares étaient des chrétiens, mais rejetaient bon nombre de principes de l'Église catholique, comme par exemple le culte des reliques, la vénération des saints, ou encore l'autorité du pape. Ce dernier décida alors de lancer une croisade avec le roi de France pour les exterminer. Suite à cette croisade, beaucoup de villages furent pillés et incendiés et les habitants se retrouvèrent sans abri. Afin de grouper et de surveiller la population pour ne pas que l'hérésie cathare reprenne racine et pour remettre en culture les terres aux alentours qui avaient été dévastées par la croisade, le roi de France créa ses bastides, ses villages neufs. En effet, le lieu d'implantation de la ville de Mongeard se trouvait autrefois en pleine forêt, la forêt des Arcisses, qui fut exploitée tout au long des siècles, rapportant de l'argent à son propriétaire, le roi de France. On construisait des bastides à partir d'une place centrale. On plantait un poteau et à partir de là, on quadrillait l'espace égalitaire et à angle droit. Son but était de mettre en valeur un coin de terre et d'y implanter des habitants pour y créer des richesses. En contrepartie, des droits et des franchises étaient accordés aux nouveaux habitants, ce qui à l'époque était particulièrement attractif. Les habitants de Nayou, le village voisin, conscients des avantages accordés à la nouvelle ville, à la nouvelle bastide, commençaient à démolir leurs maisons pour les rebâtir à Mongeard. Craignant le dépeuplement, Nayou demanda les mêmes droits que la nouvelle bastide et en 1319, elle devint une dépendance de Mongeard. La Porte Petite. Nous sommes actuellement devant l'ancienne Porte Petite, appelée aussi la Porte de Cers, l'une des deux portes fortifiées d'origine de la bastide. La protection de la bastide était en effet assurée par des douves, des fossés remplis d'eau, qui faisaient le tour du village. Une partie de ces douves était encore visible dans les années 70. Pour passer ces douves, il y avait donc deux portes équipées de ponts-levis qui ne sont plus visibles aujourd'hui. Derrière vous, en bas du village, se trouve un moulin. C'est le moulin d'en bas, dont la rénovation est récente, mais qui pour l'instant ne tourne pas. Le Lauragais étant l'une des régions de France les plus ventées, cela explique la présence de nombreux moulins. À Mongeard seulement, on en dénombrait 5 autrefois. La mairie. En face de vous se trouve la mairie de Mongeard. Le maire actuel de Mongeard est Marie-Claire Garofalo. Auparavant, au Moyen-Âge, l'administration d'une bastide se caractérisait par, premièrement, l'attribution de sa charte de coutume ou l'ensemble de conventions sociales réglant la vie des habitants, et deuxièmement, l'élection consulaire mandatée pour administrer la communauté. Là est la particularité d'une bastide, être administrée par des consuls. À Mongeard, ils étaient au nombre de 6, donc 4 pour Mongeard et deux pour sa dépendance, Naïou. Les consuls avaient la responsabilité de la propreté de la ville, de l'entretien des chemins et de la surveillance des biens et des récoltes. Avancez-vous maintenant tout droit en suivant la rue. Arrivez jusqu'à la halle. Cette halle est moderne. Elle a été reconstruite au XIXe siècle. L'ancienne halle devait être en bois et en pierre. Dans les Bastides, la halle était toujours au centre de la ville, où elle constituait et constitue encore aujourd'hui l'un des lieux de vie principaux. Plusieurs types d'échanges se faisaient sous la halle au Moyen-Âge. On y vendait ici de la laine, de la vaisselle et des denrées alimentaires. Sur tout marché existait un droit de leude, ou aussi appelé droit de péage, pour les marchandises qui arrivaient et qui ressortaient de la ville. Ce droit de leude appartenait au roi seul, et c'est ainsi qu'il s'enrichissait. Les habitants de la Bastide de Montjard étaient par exemple exempts de cette leude. C'était un de leurs privilèges. Plusieurs fois par an se tenaient des foires pour y vendre et acheter le bétail principalement. Le château. Devant vous, sur votre droite, se trouve le château de Montjard. Ce château, qui est en réalité un hôtel particulier, appartenait à la famille Durand. Il fut construit à partir de 1555 par Guillaume Durand, devenu seigneur de Montjard et capitoul de Toulouse. Cette bâtisse, qui fut épargnée pendant la Révolution française, fut qualifiée de pure merveille de la Renaissance. Mais en 1840, le propriétaire fit démolir la tour pour vendre les matériaux. Cette tour comptait 220 marches de pierre et était donc plus haute que la tour du clocher de l'église. Ce château conserve encore de très beaux restes, comme la salle voûtée, la cheminée Renaissance, les arcades et les belles fenêtres à meneaux. Il y aurait même eu un passage souterrain qui aurait mené jusqu'à l'église. Aux angles de chaque fenêtre, la fleur de pastel, qui est une crucifère et qui rappelle là un trèfle à quatre feuilles. On retrouve également cette fleur en fer forgé dans le bas du portail d'entrée. Ce château, tout comme l'église, doit sa construction à l'argent du pastel qui a fait la richesse du pays lauragais. Montjard eut la chance d'avoir des marchands pasteliers tels que la famille Durand qui fit construire ce château, mais aussi la famille Cossidière, la famille Dufaget et la famille de Ganac. Le pastel. Le pastel a donné au lauragais du XVe et XVIe siècle une richesse jamais retrouvée. Il s'agit du siècle d'or, qui a vu la région se couvrir de châteaux, d'églises et de pigeonniers. C'est la plante mythique du pays de l'Aurac. On l'appelle ici l'herbe du lauragais. Plusieurs autres pays et autres régions cultivaient le pastel. Et pourtant, comme le disait Olivier de Serres, le pastel ne vient bien qu'en lauragais. Le pastel est une plante de la même famille que le colza. Ses feuilles ressemblent beaucoup à des plants de salade et ses fleurs sont jaunes. Le pastel contient dans ses feuilles un produit chimique qui permet de teindre en bleu les tissus et la laine. Les feuilles étaient soigneusement cueillies, lavées et écrasées au moulin pastelier. Ces dernières étaient ensuite malaxées en boules, appelées coques en occitan, et mises à sécher pour une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois. Une fois les coques séchées, il fallait les écraser et les mélanger avec de l'eau croupie et de l'urine pour qu'elles commencent leur fermentation. Les boules se transforment donc en pâte, d'où le nom de pastel. Séchées, ces boules donnent une poudre, la grana, qu'il faut mélanger dans une grande cuve avec de l'eau et de la chaux. Il suffisait ensuite de tremper les tissus dedans pour qu'ils en ressortent colorés d'un bleu indélébile. Continuez maintenant en suivant les arcades. Arrêtez-vous ensuite au bord de la route. Du bord de la route, vous voyez au loin une échauguette, une petite tour de guet, d'un système de défense qui en comprenait plusieurs. La construction de cette échauguette daterait de la même époque que le château, c'est-à-dire XVIe siècle. Elle devait faire partie d'un ensemble de défense du château, beaucoup plus important. Les habitants de Montjard devaient s'en servir probablement pour se protéger lors des guerres de religion, car Montjard était en effet un village catholique, tandis que Calmont et Gibelle, les villages à côté, étaient protestants. De même, le parc était une dépendance du château. De tout temps a existé un passage sur la rue entre la grande maison à pigeonniers et le parc. À droite et à gauche de l'échauguette, une grande maison, un parc et un grenier sont présents. Cette bâtisse avec un pigeonnier, cour intérieure et orangerie aurait été une dépendance du château. Continuez maintenant votre balade. Tournez à gauche et continuez à marcher le long de la route sur quelques mètres. Arrivez au square Aimé-Raymond, tournez à gauche et le traversez. Marchez le long du château. Arrêtez-vous avant de traverser la route goudronnée. Nous sommes actuellement devant l'emplacement où il y avait autrefois la porte appelée la porte de l'OTAN, qui était la deuxième porte fortifiée de la Bastide. Elle est appelée porte de l'OTAN car le vent qui souffle le plus souvent en pays louragais est le vent d'OTAN. Continuez tout droit en marchant sur l'emplacement des anciennes douves, aujourd'hui un parterre enherbé. Arrêtez-vous devant l'église pour la contempler. Sans son église, Montjard ne saurait pas ce qu'il est. Monumentale pour un petit village, cette église est le témoin de la richesse procurée par le pastel. Montjard a eu la chance d'avoir de riches marchands pasteliers, chacun ayant participé à la construction de l'édifice. Au premier abord, l'église a un aspect fortifié. Pourtant, les mâchicoulis sont uniquement décoratifs. Les créneaux ont été ajoutés au début des années 1900. L'aspect massif de la tour et l'épaisseur des murs s'expliquent par le fait que ce donjon devait être à l'origine surmonté par un clocher flèche, type celui de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Or, la fin du siècle d'or et les guerres de religion au XVIe siècle n'ont pas permis de réaliser ces travaux. Et c'est un clocher-mur relativement modeste pour une église de cette taille qui a été construit à la place. Aux quatre angles de la tour, il y a des gargouilles. Trois d'entre elles sont classiques, tête de lion et de loup. La quatrième est unique. Elle représente une faunesse parturiente, c'est-à-dire une femme au pied d'animal portant un pot d'eau sur la tête qui est en train d'accoucher d'un garçon. Probablement une symbolique rustique de la fécondité. À l'entrée de l'église, deux inscriptions de part et d'autre du porche. À gauche est écrit en occitan. L'an 1533, le 4 avril, mourut Arnaud Dufagé, habitant le présent lieu de Montjard, lequel donna tout son bien à l'église du présent lieu. Que Dieu lui en fasse miséricorde. Côté droit, en français, il y est écrit l'an 1535, le 8 juillet, décéda Sire Jacques Durand, fils de Sire Bernard, lequel donna 50 milliers de briques pour bâtir le présent clocher. Que Dieu lui soit miséricordieux. Posé en 1546. Au-delà de l'intérêt local, elles permettent aussi de constater, entre 1533 et 1546, l'abandon de l'occitan comme langue officielle. La rue et le parvis ont été refaits avec des calades, c'est-à-dire des galets posés sur le côté. Le porche, en revanche, a gardé sa magnifique calade d'époque. L'église contient plusieurs chapelles privées. La plupart avaient été achetées chacune par un marchand pastelier habitant Montjard. Ces chapelles conservent leurs souvenirs, puisque leurs pierres tombales sont encore visibles. Avancez-vous maintenant à l'intérieur de l'église, tout au fond, près de l'autel. Pour pouvoir comprendre la description qui va être faite de ces chapelles, et pour pouvoir bien comprendre à qui elles ont appartenu dans le passé, vous pouvez vous aider du petit plan de l'église qui vous a été remis en même temps que ce MP3. Première chapelle, chapelle Saint-Michel, pour Bernard Durand et les siens. Les Durand sont originaires de Montjard même. Modestes propriétaires que le commerce du pastel va enrichir et que la richesse poussera rapidement vers le sommet de l'échelle sociale. Bernard Durand eut trois fils, Jacques, Jean et Guillaume. Guillaume devint le seigneur de Montjard en achetant les droits à Catherine de Médicis, qui était à l'époque comtesse du Lauragais. Dans cette chapelle, il y a une albâtre, c'est-à-dire une petite statue de marbre venant de Nottingham. Au-dessus de vos têtes se trouve la clé de voûte Saint-Michel, tuant le dragon, et sous vos pieds se trouve bien entendu la pierre tombale de la famille Durand, avec les initiales de la famille surmontées de la croix archiépiscopale. Deuxième chapelle, la chapelle Saint-Blaise, pour Jacques de Caussidière et sa famille. C'est Nicolas Caussidière qui, de concert avec ses enfants, fit bâtir à ses frais la chapelle Saint-Blaise. Dans cette chapelle, il y a bien sûr la pierre tombale de cette famille, avec leurs initiales, le grand C surmonté de la croix archiépiscopale. Au-dessus de vos têtes, la clé de voûte représente Saint-Blaise. Devant vous, l'albâtre qui représente Sainte-Catherine. C'est Jacques de Caussidière qui ramena le magnifique bénitier de Pise qui se trouve à l'entrée de l'église. Maintenant, rendez-vous dans la chapelle en face. Il s'agit de la chapelle Saint-Antoine de l'Ermite, pour Pierre de Ganac et sa famille. C'est une famille originaire de Montjard. Ce fut Pierre de Ganac le jeune qui fit bâtir la chapelle Saint-Antoine. Dans cette chapelle, il y a la pierre tombale de la famille avec leurs initiales P, D, G et les plus belles clés de voûte de l'église datant du XVIe siècle, du gothique flamboyant. Un petit peu partout sur l'église, vous pourrez lire des initiales P, D, G signifiant Pierre de Ganac. La quatrième chapelle est la chapelle d'Arnaud du Faget. Arnaud du Faget était consul de Montjard. Il fut à ce moment-là le défenseur de ses compatriotes qui étaient en procès avec les producteurs de pastels. Il légua toute sa fortune à l'église le jour de sa mort. Cette chapelle a été complètement réaménagée et est aujourd'hui dédiée à Saint Prin, guérisseur. Arnaud du Faget, lui, avait choisi de dédier sa chapelle à Sainte-Trope. Dans un coin de la chapelle, vous verrez sur un écusson doré un arbre. Il s'agit d'un hêtre. En effet, Faget vient du latin fagus qui signifiait hêtre et qui symbolise donc les armoiries de la famille du Faget. Dirige-vous maintenant pour terminer la visite vers la chapelle numéro 5. Vous y verrez un triptyque exécuté par Daniel Coulet, un artiste contemporain. Né le 6 mai 1954 à Montpellier, il vit et travaille aujourd'hui à Paris. Cet artiste complet fait de la peinture, de la sculpture, des dessins, des vitraux et dessine également du mobilier urbain. Par exemple, c'est lui qui a dessiné certains lampadaires du village de Nailloux. Ce retable a été exécuté en 2009 et représente le déluge. C'est une scène religieuse. La technique est mixte et sur toile. Les peintures de la voûte. La voûte a été repeinte au XIXe siècle par les frères Pedoya, qui se sont occupés de repeindre d'autres églises dans la région. Le style pictural s'apparente à celui de la cathédrale d'Albi, dont la voûte fut peinte au début du XVIe siècle par des artistes italiens venus de Bologne. Montjard est parfois surnommé la petite Albi. C'est la fin de la visite, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur Montjard.